Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite, présenté par l'agence Pure Commerce. Mon nom est Antoine Gagné et mon objectif est de vous aider à bâtir un commerce élite. Et cette semaine, on vous révèle la stratégie à mettre en place pour générer plus de 100 000 $ de vente avec votre e-commerce seulement via le emailing pendant le Black Friday. On parle également de Pinterest qui n'arrête plus d'affoler les e-commerçants. Bonne écoute! Aujourd'hui, on parle de Pinterest dans les nouvelles de la semaine. Le géant du média social a dévoilé deux innovations qui pourraient bien changer la donne pour les annonceurs et les e-commerçants. Premier, Spotlight et Catalogue de destination sont dans la chronique du jour. Avec plus de 450 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, Pinterest est un terrain fertile pour les annonceurs. Premier Spotlight offre une solution d'annonce à fort impact qui maximise la visibilité sur des emplacements premium. Imaginez une vitrine sur la rue la plus animée du digital réservée rien que pour vous. C'est un format idéal pour un lancement de produit occupant près de 50% de la page de recherche Pinterest sur mobile. Mais c'est avec les catalogues de destination que Pinterest frappe un grand coup. Ce dispositif innovant est une version voyage de la solution Pinterest Shopping. Les annonceurs peuvent importer des offres de voyage qui sont transformées automatiquement en épingle dynamique d'achat avec toutes les informations pertinentes, c'est-à-dire tarifs, disponibilité, images et même descriptions. Pourquoi est-ce une aubaine pour les annonceurs? Eh bien, parce qu'il permet de passer de l'inspiration à la réservation en un seul clic. Les commerçants qui ont utilisé cette solution ont connu une hausse de près de 30% du nombre de transactions finales. Et ce n'est pas rien, sachant que chaque mois, des dizaines de millions de personnes interagissent avec du contenu de voyage sur la plateforme. Premier Spotlight est déjà disponible dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, la France et l'Australie. Les catalogues de destination seront accessibles à l'échelle mondiale à partir de cet été. Ces deux innovations soulignent l'engagement de Pinterest à offrir aux consommateurs une expérience plus intégrée et personnalisée de l'inspiration à l'action. On va faire du pouce à notre autre podcast, No Pay, No Play, dans lequel on recevait Danilo Duchesne. Danilo venait nous parler de son étude sur une partie des e-commerce et leur posait la question suivante. Quelle plateforme publicitaire avez-vous testée dans la dernière année et quelle est celle que vous allez garder? Hormis Facebook et Google, c'est bien Pinterest qui avait le plus haut score d'adoption chez les annonceurs comparé à TikTok ou encore Snapchat Ads. Pinterest est vraiment en train de s'installer durablement et solidement dans le secteur publicitaire. Vous devriez le garder à l'œil. Investir en pub, c'est souvent ce qu'on fait lors d'une stratégie Q4. Mais imaginez un instant que vous n'utilisez que le emailing et rien d'autre. Seriez-vous confiant de faire des bons résultats tout de même? Mon invité du jour, Benoît Michaud, nous explique comment son client a généré plus de 100 000 $ de ventes simplement avec une stratégie bien construite pour le emailing et bien entendu pendant le Black Friday. Prenez des notes, ça commence maintenant. Donc, on est de retour sur le volet discussion du podcast Commerce Élite et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Benoît Michaud qui se spécialise dans le marketing pour les infopreneurs, qui est également formateur pour les gens qui veulent se reconvertir dans le monde du marketing numérique. Benoît, comment vas-tu aujourd'hui?
Eh bien, je vais très bien et je suis très, très heureux d'être avec toi sur ce podcast. J'espère qu'on va pouvoir partager beaucoup de valeur pour les gens. C'est un petit peu ma marque où je donne tout et je retiens rien. Donc, j'espère que je pourrai le faire dans ce podcast.
J'adore cette manière de penser parce qu'effectivement, c'est mieux de donner du contenu, d'aider les gens et ultimement, on dirait que ça nous revient toujours. Des fois, les gens peuvent avoir peur de dire « si je révèle tous mes secrets, est-ce que les gens vont me les voler? » Eh bien, vous seriez surpris de voir l'inverse. Quand vous donnez tous vos secrets, habituellement, les gens, au lieu de vous les donner, on vous le redonne et ça crée des opportunités, ça crée des rencontres. Bref, c'est une bonne manière de penser. Maintenant, Benoît, peut-être les gens qui nous écoutent aujourd'hui se disent « un spécialiste en infopreneuriat, Commerce Élite, c'est davantage boutique en ligne. » Mais n'ayez pas peur parce que Benoît, aujourd'hui, va nous partager une stratégie parfaite pour le Q4, pour le Black Friday qu'il a mis en place avec un client qui est dans l'infoproduit, certes, mais qui vend des produits en ligne. Donc, ça peut clairement se mettre en place pour votre entreprise, vous qui nous écoutez aujourd'hui et qui possédez des boutiques en ligne. Mais avant toute chose, peut-être, Benoît, est-ce que ça serait possible pour toi de nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais présentement avec les différents infopreneurs que tu accompagnes, quel type de service tu fais pour les aider? Par la suite, on attaquera le cas client qu'on a aujourd'hui pour notre audience.
Ouais, donc moi, je fais ça depuis 2018 déjà. Donc, j'ai l'impression d'être un petit peu un dinosaure à l'échelle d'Internet, tu vois. Et donc, c'est ça, j'aide principalement des infopreneurs, donc des gens qui vendent de l'information en ligne, que ce soit des formations, des coachings, des masterminds, bref, tout ce qui est intangible, en fait, service numérique. Et je les aide à travers leur stratégie de conversion, notamment via le copywriting. Donc, écrire des publicités qui attirent l'attention, écrire des pages de destination qui captent l'attention et qui convertissent sur un clic, puis un achat. Donc, sur cette partie un peu front-end et sur la partie aussi back-end via l'email marketing que j'adore personnellement, que je trouve sous-exploité autant en infoproduit qu'en e-commerce produit physique. Et j'adore tout ça. Donc, c'est vraiment ce que je fais, la conversion, l'acquisition via le copywriting.
Fantastique. Et c'est ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Vraiment le volet emailing. Mais rentrons dans le vif du sujet. Donc, on discutait, toi et moi, il y a quelques jours de cela. Un de tes clients, il y a un ou deux Black Friday, a lancé une stratégie concernant, bien entendu, la fameuse période du mois de novembre, fin novembre. Une stratégie uniquement emailing qui a généré des résultats assez impressionnants. On est dans les 6 chiffres ici. Et là, tu m'as dit, Antoine, ce qui serait intéressant, c'est que cette stratégie-là, les e-commerçants qui t'écoutent pourraient la reprendre. Donc, attaquons tout ça. Peux-tu nous parler un petit peu de ce client-là, dans quelle catégorie il opère, comment tout ça s'est mis en place?
Ouais, donc c'est un client dans la niche des animaux. Donc, surtout, ça peut très bien maintenant. Il fait du e-commerce. D'ailleurs, il a commencé par de l'infoproduit. Maintenant, il vend ses propres produits physiques. Et donc, ce client, il avait un beau business à plus de 7 chiffres par an. Il avait une belle liste email qu'on l'alimentait. Ça, c'est un point important. Quand on va vouloir vendre en email marketing, c'est pas de juste arriver et de vendre. C'est qu'en amont, il y a une relation qui soit créée. Et ça, c'est un point super important à comprendre, justement, pour la stratégie qu'on va dévoiler pour le Black Friday ou pour n'importe quel lancement de produit. Il faut pas que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Il faut que ça vienne dans une stratégie globale. Donc, ça, c'est le premier point.
Et dis-nous un peu, peut-être, parce que ce qui est important de mentionner ici, c'est que bien entendu, ça peut être intéressant de lancer des stratégies emailing pour le Black Friday. Mais plus souvent qu'autrement, il nous faut une bonne masse critique de gens à qui s'adresser. Je le répète, pour le client qu'on va analyser ensemble aujourd'hui, ce n'est pas un client qui avait investi en publicité. C'est un client qui avait uniquement attaqué son email marketing. On parle ici d'une liste de combien de personnes environ qui suit l'entreprise?
Ouais, sur la liste qu'on avait shootée pour le Black Friday. Donc, c'était vraiment, en gros, il y avait une offre clé, c'est celle-là qu'on a shootée. Et on a shooté toute la liste qui était de l'ordre de 60-70 000 personnes. Autant des leads, donc des prospects qui n'avaient jamais acheté, que des acheteurs sur des produits low ticket, donc à 47-97 euros. Donc, tous ceux qui n'étaient pas clients du produit phare, qui était un produit haut de gamme, on les a shootés sur cette offre.
Donc, quand même 60-70 000 personnes sur la liste. Donc, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui pensent des fois faire de la publicité ou ne pas faire de la publicité, soyons très clairs, ça peut être une excellente manière d'attaquer simplement le volet emailing, mais on doit s'assurer d'avoir une distribution qui est adéquate. Ici, à 60-70 000 personnes, soyons honnêtes, c'est quand même une belle distribution. Donc, on voit le client veut attaquer le volet emailing. Tu vas nous parler peut-être un petit peu plus tard de ses offres. Mais à la base, quels étaient ses objectifs de vente? Est-ce que vous aviez mis ça au clair ensemble, des objectifs que vous vouliez atteindre? Et est-ce que c'est ces objectifs qui avaient dicté un petit peu la stratégie que par la suite tu avais proposée?
Juste pour revenir sur le point d'avant, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il ne faut pas forcément des listes très, très grandes. Et par expérience, avec des listes de même de moins de 1000 personnes. Hein. J'ai un client e-commerçant justement pour qui j'avais fait des séquences email. Et il y avait, je me souviens, il y a une séquence qui a été shootée à 126 personnes, des prospects qui avaient juste laissé leur email sur un pop-up, bienvenue sur la newsletter, moins 10%. Et juste 126 personnes shootées, ça fait 50 lectures d'email à peu près. Et sur ces 50 lectures d'email, on avait généré 1300 euros. Donc en fait, tu vois que le rapport est important. Donc je pense qu'il ne faut pas se brider. Et dès qu'on a quelques centaines de prospects, on peut commencer à mettre en place des flows d'email marketing. Et je le recommande pour rentabiliser l'acquisition organique et payante surtout.
Bien sûr. Non, c'est clair que des flows emailing et une stratégie emailing doivent faire le jour 1. Le seul point, et tu me diras ce que tu en penses, Benoît, ici, si on a des gros objectifs de vente, comme je pense que ton client avait, si on n'a pas une certaine liste, on risque peut-être de trouver le temps long. si on a simplement une liste de 1000 ou 2000 personnes et qu'on veut atteindre dans les 6 chiffres de revenus, là.
Oui, bien sûr, tout est proportionnel, mais c'est pour ceux qui sont peut-être à un stade plus bas, ne pas du tout s'inquiéter. En tout cas, moi, je pense que c'est intéressant de le mettre en place, parce que surtout que c'est souvent, on peut mettre des automations en place.
Bien sûr.
Et qui vont tourner toutes seules. Donc, vous les faites une fois, ça tourne tout seul et ça rapporte du cash flow qui rentabilise les ads. Ça peut permettre d'être soit break-even, soit d'aller chercher de la rentabilité sur du trafic froid. Et ensuite, de scaler, du coup, les publicités grâce à ce back-end. Et sans ça, en fait, on perdrait de l'argent. Donc, voilà.
Définitivement. C'est sûr et certain qu'une stratégie mailing va augmenter considérablement les retours sur investissement de toute autre initiative publicitaire qui vont se faire par la suite. Mais revenons peut-être ici un peu, objectif de vente. Est-ce que tu es capable de nous parler un petit peu de ce qui avait été mis sur la table?
Ouais, pour être très franc, en fait, il n'y avait pas grand-chose justement. Donc, ce client, il était toujours un petit peu débordé par les projets. Donc, il m'a dit, Benoît, occupe-toi du Black Friday. On lance ce produit. Et en fait, j'avais carte blanche. Il n'y avait pas vraiment d'objectif. Je sais que l'année précédente, il avait fait quelque chose comme 50 000 euros, ce qui était déjà très, très, très bien. Et donc, bien sûr, intuitivement, c'était l'objectif de faire plus. Mais il n'y avait pas d'objectif chiffré. Et pour être très franc, on a tous été choqués des résultats. Personne s'y attendait. J'aurais jamais pu prédire ça. Et ça a été vraiment un succès.
Donc là, tu nous as mis l'eau à la bouche, on veut t'écouter. Parce qu'au final, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est plus de 100 000 euros qui ont été générés avec cette stratégie-là. On veut l'entendre, la stratégie. On t'écoute, Benoît.
Ouais, donc moi, je suis parti du postulat que les gens, aujourd'hui, peu importe le marché est beaucoup plus sophistiqué. Ils sont beaucoup plus aware, les gens voient des offres, et encore plus au Q4, au Black Friday, ils se font bombarder toute la journée. Donc, je me suis dit, on va d'abord créer de la relation. Donc, ça, c'est ce qu'on fait toute l'année. Et j'insiste vraiment là-dessus. Où on apporte de la valeur aux gens, on leur donne des conseils, etc. Et on a fait une promo, c'est un point important, sur une offre qui n'avait jamais été en promo. Et c'est ça qui a fait la clé du succès. Quand on fait des promotions toujours sur le même produit, les gens, ils sont pris frame sur le fait que je peux l'avoir à 50 euros, j'attends quelques mois avant de l'acheter à 100 euros, par exemple. Là, ce produit, il n'avait jamais été en promotion. Donc ça, ça a été le premier facteur clé de succès selon moi, c'est de taper du poing sur la table et de dire ce produit qui n'a jamais été en promotion, le voici en promotion. Et c'est l'incentive numéro un aujourd'hui de jouer sur le prix. Il y a pas à dire, quoi. C'est ça qui fait acheter les gens.
À tous les auditeurs du podcast Commerce Elite, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que la croissance de votre commerce en ligne va à la vitesse dont vous le souhaitez? Est-ce que dans votre plan marketing, vous avez la bonne balance entre campagne Facebook et Google Ads, stratégie emailing adaptée ou encore création de vidéos natives? Chez Pure Commerce, on s'est aperçu à travers les années que nos clients en commerce électronique qui avaient la croissance la plus forte possédaient chacun des éléments mentionnés plus haut. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a bâti une agence 100% dédiée à la croissance des boutiques en ligne, en offrant tous les services qu'une boutique se doit d'avoir pour grandir. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire de croissance pour débuter l'année en force, rendez-vous au www.purecommerce.co/analyse. Donc, je le répète, purecommerce.co/analyse. Ou encore, venez me parler directement sur LinkedIn afin qu'on puisse regarder comment on peut vous aider. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. Est-ce que c'est quelque chose que tu as revu peut-être avec d'autres clients dans le futur, de faire en sorte de travailler sur des promotions avec des produits qui n'avaient jamais été mis de l'avant? Est-ce que c'est quelque chose qui revient dans tes stratégies de base quand tu abordes un nouveau mandat?
Alors, pas spécialement. Là, c'était la première fois qu'on le faisait. Je ne le propose pas toujours parce que ça baisse la valeur perçue de l'entreprise à court, moyen, long terme, en fait. Donc, c'est vraiment, encore une fois, des opérations très coup de poing qu'on va faire une fois tous les 1 an, 2 ans. Je ne recommande pas de le faire une fois et encore moins plusieurs fois par an. Il y en a qui le font, je sais que ça marche, mais personnellement, sur la vision long terme, je ne trouve pas ça incroyable. Là, par contre, on l'a fait sur une fenêtre. On aura l'occasion d'en parler de 3 jours. Donc, c'était très court. Si tu viens avant, c'est plus cher. Si tu viens après, c'est plus cher. Et si tu viens pendant cette période, c'est bon, mais c'est tout. Et il n'y a pas de « je reviens le mardi d'après, c'est bon ». Non, non, c'est que cette période-là. Donc, il y a une vraie urgence, il y a une vraie rareté. Et c'est ça aussi qui le second facteur, en plus de la promo, c'est l'urgence. C'est à 3 jours et pas 1 heure de plus, quoi.
Fantastique. Ben revenons à tout ça. Donc, un produit qui n'avait jamais été mis de l'avant. Qu'est-ce qu'on fait par la suite pour s'assurer d'avoir le maximum de résultats?
Ouais. Donc, le cœur de la stratégie, en fait, ça a été de pas vendre. Et c'est ça que moi, j'aime bien mettre en avant. C'est qu'on a fait un vrai teasing pendant plusieurs jours. Donc, une semaine avant et même la semaine de lancement du lundi au jeudi. on vendait le produit dans les emails, mais sans lien cliquable. On disait, voici ce produit, pourquoi tu dois l'acheter, il est trop bien, il est trop bien. Les portes ouvriront ce vendredi. Et pareil, le mardi, le mercredi, etc. Et donc, on crée une vraie frustration chez les gens qui seraient prêts déjà à acheter, mais ils ne peuvent pas, en fait. C'est seulement quand on aura décidé d'ouvrir les portes. Et du coup, ça suit un framework, c'est le troisième point. En plus de la promotion, en plus de l'urgence, c'est toute cette partie pre-frame. Je ne sais pas s'il y a un mot français vraiment pour dire ça, mais vraiment teasing, quoi. Et du coup, les gens étaient frustrés, ils avaient envie, ils étaient prêts. Et dès qu'on a ouvert les portes le vendredi matin, c'était incroyable.
Et le vendredi matin, tu lances le email. Et là, tu as parlé un petit peu plus tôt, c'est 3 jours qui est d'ouverture. Est-ce qu'il y avait une limite du nombre d'achats sur les produits? Bien entendu, on le sait que il n'y en aura pas réellement parce qu'on est dans de l'infoproduit ici, mais au-delà des stratégies d'urgence que tu as été capable de mettre en place, de teasing également, est-ce qu'il y avait une limite du nombre d'achats possibles que tu disais à tes consommateurs?
Non, on l'a pas mis en place avec ce client, mais moi, je l'ai déjà fait pour mon propre business ou pour des business de clients et ça marche extrêmement bien de reprendre ce processus, de teaser les gens, de dire, je sais pas, il y a 50 produits en stock, il reste que 50 tickets, peu importe. On ouvre vendredi et là, tu ouvres et normalement, jour 1, tu es sold out directement. Quoi.
Exactement. Puis là, par la suite, ça crée un peu cet effet avec tes autres clients de dire la prochaine fois, achetez encore plus rapidement parce que vous avez été capable de voir qu'en quelques heures seulement, il n'y en avait plus de produits. Donc là, parle-nous un petit peu de ce lancement. On est capable de comprendre la séquence pré-lancement. Au niveau du lancement maintenant, à quoi ressemble ta fréquence d'envoi? Est-ce que c'est seulement un email pour le jour 1, est-ce qu'il y a un email le matin, un email le soir? Je serais curieux de t'entendre un petit peu sur cette séquence d'envoi, le jour, bien entendu, du lancement et peut-être également par la suite, les jours subséquents.
Ouais, donc le vendredi, le matin, c'est un email très court parce qu'ils ont été teasés, donc ça ne sert à rien de refaire du blabla. Dans tous les cas, ils tombent sur une page de vente qui redécrit le produit. Donc c'est « Bonjour à tous, cliquez ici, c'est enfin live et c'est parti ». Donc ça, c'était le matin à 8-9 heures. Le soir, on refait un rappel à 18h, 19h pour dire si vous l'avez loupé, il y a ceci, il y a cela. Là, on récapitule un petit peu plus l'offre. Le matin, c'est un email de 2 lignes. Le soir, on peut faire un email plus long où on réexplique l'offre, les tenants aboutissants, la promotion, les conditions, tout simplement, c'est disponible jusqu'à dimanche, etc. Et le samedi, donc c'était 2 emails aussi, matin, soir. Et le dimanche, c'était 3 ou 4 emails. Alors, j'ai plus exactement, mais c'était matin, 18h, 20h, 22h, quelque chose comme ça pour vraiment jouer sur l'urgence. À minuit, c'est terminé. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi.
Donc, clairement, on est capable de jouer sur l'urgence ici. Et dis-moi, bon, 100 000 euros au final que vous avez été capable de faire avec une liste d'environ 60 000 personnes, ça ressemble à ça un peu les chiffres?
Ouais, c'est ça. On a fait un peu plus de 100 000 euros uniquement via ces emails. Ouais.
Et quand tu as une stratégie qui est autant lucrative, bien entendu, ça peut donner envie de refaire cette stratégie-là. Je serais curieux de t'entendre ici sur cette thématique. Est-ce que ce type d'approche avec ce client spécifique ou d'autres clients avec qui tu as pu travailler dans le passé, Benoît, vous essayez peut-être d'entourer d'autres moments opportuns dans l'année. On le sait, après le Black Friday, s'enchaîne la période des fêtes. Il y a d'autres périodes qui peuvent être également importantes dans l'année. Comment qu'on est capable de répéter cette expérience-là?
Ouais, c'est ce que je dis. Donc moi, je forme des gens aussi, on n'en a pas parlé, au copywriting justement. Et je leur dis, cette séquence, elle est dangereuse. Utilisez-la vraiment avec précaution. Parce qu'en abuser, c'est le fait qu'elle ne fonctionnera plus. On va griller sa liste et ça ne fonctionnera pas. Donc moi, ce que je conseille, c'est de toujours renouveler ces offres. C'est-à-dire que si on fait ça au Black Friday, à Noël, qui est seulement quelques semaines après, on va jouer sur autre chose. Tu l'as évoqué, par exemple, un nombre de places limité ou sur une autre offre ou sur un bundle. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, prendre plusieurs produits dans le lot, il y en a un offert ou plusieurs ou quelque chose comme ça. Donc, cette séquence, moi, je la fais une voire 2 fois par an, mais c'est le grand maximum. Mais par contre, après, je vais toujours jouer sur d'autres types de séquences, comme je viens de l'évoquer. Et c'est ça le plus dur, entre guillemets, c'est d'avoir la créativité de vendre toujours le même produit ou la même offre, mais de manière différente, avec un angle différent, pour toujours avoir des super pics de vente, sans que la liste ait compris un petit peu le process. Ah, ben, il va nous faire comme il a fait au Black Friday. Voilà.
C'est là qu'on reconnaît les bons marketeurs. C'est là qu'on reconnaît les gens qui comprennent un petit peu comment construire une offre distincte, comment avoir de la création dans nos envois.
J'imagine que ouais, mais en tout cas, pour nous, ça fonctionne très bien et pour nos clients aussi. Et c'est vraiment un conseil, effectivement, quand vous trouvez quelque chose qui marche, on dit toujours « fais plus de ce qui marche », mais en l'occurrence, là, il faut faire attention et se dire « je l'ai fait une fois, ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux changer d'un petit peu différent pour que les gens ne soient pas non plus… faut pas prendre les gens pour des personnes bêtes non plus, quoi. Donc, faut essayer de toujours varier un petit peu l'offre.
Intéressant. Bon, tu l'as mentionné, tu formes des gens. Tu formes des gens au copywriting. Comment formes-tu les gens au moment où on se parle pour les périodes qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Est-ce que cette année, tu vois peut-être le Q4 de manière différente des années passées? Est-ce que tes stratégies vont être similaires? Quelles sont tes analyses que tu fais un peu en ce moment par rapport à l'automne et le Q4 qui arrive très rapidement?
Ouais, moi, je suis partisan, en tout cas pour notre boîte à nous, en fait, le Q4, c'est du bonus et on va plus se vendre l'année à l'année plutôt que se concentrer sur le Q4 pour la raison simple, encore une fois, que les gens, ils mettent tous leurs efforts sur le Q4. Donc, si tu mets tes efforts quand eux ne le font pas, ben, naturellement, en fait, tu vas profiter du marché qui est un peu plus calme et c'est là que toi, tu pourras faire plus de ventes. Donc, moi, j'ai plus cet aspect de faire l'opposé des autres. Et l'année dernière, par exemple, on a fait une stratégie Black Friday aussi avec mon associé où on l'a fait une semaine avant la semaine du Black Friday, en fait. Donc, on a anticipé, on a fait nos ventes et après, la semaine du Black Friday, on a dit bah, « Ok, les marketeurs, battez-vous, faites vos ventes. Nous, c'est déjà fait, on s'en occupe pas. » Donc, j'ai toujours cet aspect, essayer d'être à contre-courant des gens parce que sinon, la personne lambda qui achète de l'infoproduit ou du e-commerce, elle va recevoir 15 mails dans la journée, si pas plus, qui vont tous être moins 50%, moins 60%, moins 10%, moins 20%. Et en fait, elle va pas savoir où donner son argent. Donc, j'essaye d'anticiper pour qu'elle donne son argent à moi dans un premier temps.
Bon, c'est bien. J'aime l'idée. Donc, on le voit même de plus en plus, des entreprises font des Black Friday qui sont de plus en plus tôt. On parle même de Black November maintenant. C'est une thématique qui revient beaucoup. Et si on attend simplement le Black Friday, on dirait que la majeure partie des gens ont déjà donné leur argent ailleurs. Ouais. Et il y a une limite dans le porte-monnaie des consommateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler. Benoît, si on veut en apprendre plus sur ce que toi tu fais, sur ce que tes collègues également font avec votre boîte, c'est où l'endroit le plus simple pour en apprendre un petit peu plus?
Ouais, bah sur LinkedIn, vous tapez Benoît Michaud, vous verrez ma tête avec des lunettes et un sac à dos devant un ciel bleu, bah c'est moi. Et j'essaye de partager quelques conseils et si vous m'envoyez un message, bah c'est pareil, j'essaye de vous aider comme je peux.
Fantastique, on mettra des liens dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur cette stratégie-là avant que je te laisse filer, Benoît?
Non, honnêtement, je pense qu'on a tout dit. Essayer de toujours penser un petit peu à contre-courant et de se dire qu'est-ce que mon prospect ou mon client va recevoir à ce moment-là? Qu'est-ce que je peux faire pour dépasser les offres des autres? Juste faire une promo aujourd'hui, j'ai l'impression que ça suffit plus. Donc, essayer de, je sais pas, donner un petit échantillon, donner un petit goodies, toujours apporter plus de valeur pour justement se différencier dans un marché qui malheureusement est de plus en plus sophistiqué. Donc, il faut aussi créer des offres plus sophistiquées.
Fantastique. Je pense que c'est un conseil très important à garder en tête. On le dit et on le redit très souvent, le Q4, c'est une période importante, mais le Q4 ne se construit pas en Q4, il se construit à l'année avec vos clients et par la suite, bien entendu, l'intérêt d'achat du consommateur est plus élevé à la fin de l'année. Mais si votre client n'a pas communiqué avec vous pendant l'année au complet, ça risque d'être compliqué de générer des transactions. Donc, gardez ça en tête. Benoît Michaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Elite.